VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel, bonjour à tous. 6 mois après avoir claqué la porte de l'accord sur le nucléaire iranien, le président américain rétablit lundi les dernières sanctions contre Téhéran les plus draconiennes, malgré les protestations des dirigeants iraniens, des alliés européens de Washington, ainsi que de la Chine et de la Russie. Le dernier volet de sanctions entre en vigueur en début de semaine prochaine. Il s'agit de sanctionner en leur barrant l'accès au marché américain tous les pays, entités ou entreprises étrangères qui continueront d'acheter du pétrole iranien ou d'échanger avec les banques de la République islamique. Téhéran, de son côté, espère toutefois tirer parti du soutien des gouvernements européens et asiatiques pour atténuer la charge. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Khamenei, a clairement indiqué que si les avantages économiques de l'accord se dissipaient, son pays n'hésiterait pas à quitter l'accord. Le président américain et son homologue chinois Xi Jinping ont respectivement fait part jeudi de leur optimisme quant à une résolution du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump veut parvenir à un accord avec Xi Jinping lors du G20 qui se tiendra à la fin du mois dans la capitale argentine, Buenos Aires. Dans un entretien lundi soir sur Fox News, Donald Trump a estimé qu'il était possible de conclure un grand accord avec la Chine sur le commerce, mais a prévenu que des milliards de dollars de droits de douane supplémentaires étaient prêts le cas échéant. L'administration Trump impose d'ores et déjà des droits de douane sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises. Ici même aux États-Unis, l'immigration est l'un des sujets phares de la campagne de mi-mandat. Une caravane composée de milliers de Centra-Américains se dirige vers la frontière américaine. Avant cela, vous rappelez bien des 700 000 bénéficiaires du programme DACA sous l'ère Obama qui permettait à des jeunes sans papier de vivre et de travailler légalement aux États-Unis. Eh bien, ils ne sont plus au devant de l'actualité depuis quelque temps, mais ils sont bien là, ils comptent jouer leur partition dans ces élections cruciales. Reportage Abdourahmandia.
Julian Ulises Juarez est venu aux États-Unis à l'âge de 10 ans en provenance du Mexique. Grâce à une bourse, il va à l'université et devient un reporter télé. Et en 2017, il remporte un trophée des Emmy.
I am actually undocumented. I am a dreamer. I have DACA. And this is very special.
La résolution a été approuvée par 189 pays. Comme en 2017, seuls les États-Unis et Israël se sont prononcés contre, tandis que l'Ukraine et la Moldavie n'ont pas participé au vote. La représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait présenté cette fois 8 amendements à la résolution cubaine, une tentative de diriger l'attention vers le bilan de la Havane en matière de droits de l'homme. Ces amendements n'ont pas reçu le soutien espéré par Washington. Seuls leurs alliés israéliens et ukrainiens ont voté en leur faveur, rejoint par les îles Marshall pour un amendement. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a qualifié l'administration de Donald Trump de gouvernement de millionnaires imposant des politiques cruelles. C'est la 27e fois que l'Assemblée générale de l'ONU appelle ainsi à la levée de l'embargo économique et financier des États-Unis contre Cuba en place depuis 1962. La résolution présentée chaque année depuis 1992 n'est pas contraignante et n'a qu'une portée politique.
Voilà quelques difficultés techniques. Irénée Amanoubou vous parlait donc de l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté hier une résolution non contraignante appelant à la levée de l'embargo. On revient donc sur le DACA qui s'est invité dans la campagne électorale aux États-Unis pour les élections de mi-mandat avec ce reportage de Abdourahmandia.
Julian Ulises Juarez est venu aux États-Unis à l'âge de 10 ans en provenance du Mexique. Grâce à une bourse, il va à l'université et devient un reporter télé. Et en 2017, il remporte un trophée des Emmy.
I am actually undocumented. I am a dreamer. I have DACA. And this is very special because of that.
Lorsque j'ai eu mon trophée, je voulais que cela fasse partie de mon discours. Je voulais être devant toutes ces personnes, dont beaucoup travaillent pour des chaînes anglophones, pour leur montrer qui je suis. Voilà ce que DACA a rendu possible.
Depuis 2012, lorsque l'ancien président Obama avait annoncé le programme DACA, 700 000 sans-papiers amenés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants ont obtenu le droit de travailler et de vivre ici grâce à une autorisation de travail valable pour 2 ans renouvelable. Le président Trump a annoncé en 2017 la fin de ce programme, renvoyant la balle au Congrès pour trouver une solution permanente. plus d'un an après et à quelques jours des élections de mi-mandat, les Dreamers, comme Juarez, attendent toujours. D'autres controverses comme le mur à la frontière avec le Mexique ou la séparation des familles ont éclipsé la situation des Dreamers.
Il y a toujours quelque chose qui vient pour occuper la scène. Et franchement, ils nous oublient. Ils nous oublient parce que c'est dans les circuits judiciaires et ils disent que ça va s'arranger ou qu'ils peuvent postuler encore et qu'au moins leurs documents peuvent être renouvelés en attendant. Donc ça va. Et c'est pour cela que rien ne se fait.
Pour les 13 000 bénéficiaires du DACA dans le Nevada, les élections de 2018 pourrait aboutir à une nouvelle déception, mais au moins, c'est une nouvelle occasion de se faire entendre. Les 29% de la population latino dans cet État sont attentifs.
La discussion, c'est ma famille est attaquée, mon voisin est attaqué, mes amis sont attaqués. Et peut-être que je ne suis pas touchée personnellement, mais je me soucie de ces personnes, car elles font partie de ma vie.
Même si les Dreamers n'ont pas le droit de voter, certains d'entre eux se disent qu'ils n'ont rien à perdre en galvanisant les électeurs.
Ma génération ne s'intéressait pas à la politique et on se disait que notre vote ne comptait pas. Donc je mets la pression sur mes amis, je leur demande de me rejoindre dans cette aventure pour essayer de changer les esprits.
Quelle que soit l'issue de ces élections, ces jeunes Dreamers espèrent que leur statut sera au cœur des priorités de la prochaine législature.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Voilà, 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours dans la 10e épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, portant à 180 le nombre de morts. Au total, 285 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 250 confirmés, 35 probables, et un total de 180 décès selon le bulletin du ministère congolais de la Santé daté d'hier. Les autorités ont également annoncé que la gratuité des soins était effective dans 3 zones de santé de Beni, Mabalako, Oicha, dans le territoire de Beni, et depuis le 20 août 2018, promettant de l'étendre à l'ensemble des aires de santé de la zone de Beni. Des affrontements de groupes armés survenus mercredi à Batangwafo, dans le nord de la Centrafrique, ont obligé plus de 10 000 personnes à se réfugier à l'hôpital de la ville, a rapporté jeudi l'ONG Médecins Sans Frontières. Pendant les affrontements, plus de 10 000 personnes se sont réfugiées dans les enceintes de l'hôpital soutenu par MSF, tandis que plusieurs centaines d'autres ont pris la fuite vers la brousse, a indiqué l'ONG dans un communiqué. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense Jean-Claude Bouda a déclaré que l'extension des attaques dans les régions de l'Est et de l'Ouest a fini par convaincre les plus sceptiques que notre pays fait aujourd'hui face à une campagne de déstabilisation. M. Bouda a tenu ses propos lors de la commémoration du 58e anniversaire des Forces armées nationales. Morgane Guiriek.
Le bilan au cours de cette année 2018 est assez éloquent. De nombreux morts et blessés, des infrastructures économiques et sociales détruites, des populations déplacées et la paralysie de nombreuses activités économiques, a souligné le ministre, appelant à l'union de tous les fils et filles contre la menace terroriste. Le ministre de la Défense n'a pas précisé qui il voyait derrière cette campagne de déstabilisation, mais le président burkinabé, Rochmar Christian Kabore, a plusieurs fois accusé les nostalgiques de l'ancien régime de Blaise Compaoré de vouloir déstabiliser le pays. Une thèse jugée peu crédible par les experts et les diplomates pour qui les attaques sont perpétrées par des groupes djihadistes. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, ces attaques ont fait 118 morts, 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
La gendarmerie guinéenne a empêché hier plusieurs centaines d'opposantes de marcher à Conakry pour réclamer justice pour leurs enfants tués, selon elle, pendant les manifestations réprimées par les forces de l'ordre. L'opposition estime à 98 le nombre de manifestants tués depuis l'arrivée au pouvoir en 2010 du président Alpha Condé. Amnesty International s'est inquiété mercredi du nombre de tués, 18 depuis le début de l'année, dont 3 au cours des 2 dernières semaines lors de manifestations de l'opposition en Guinée, dans un communiqué publié par son bureau pour l'Afrique de l'Ouest. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi et bonne fin de semaine à tous. Bon week-end. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.